Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Interview que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.rdwa.fr ou alors sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jacques Merle. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jacques Merle, tu es ici pour nous présenter un peu la compagnie La Muse Errante et aussi annoncer le prochain festival qui aura lieu à Chabrillan en partie et qui commencera le 9 mars.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui est proposé à ce festival, qui s'appelle comment d'ailleurs ?
Le festival s'appelle Voyage au cœur de l'homme. Ça sera la 8e édition là, cette année. On a commencé en 2009. Et on va explorer, alors c'est un festival de théâtre, lecture à voix haute. En tout cas, notre matériau à nous, organisateurs et porteurs de ce festival, c'est le texte d'auteur. Faire découvrir des textes de la littérature, du théâtre contemporain, à travers donc des lectures à voix haute et puis des spectacles. Et puis on invite aussi d'autres artistes qui ne sont pas forcément du spectacle vivant, comme des artistes plasticiens, des photographes. Et puis ça peut aller sur d'autres disciplines assez éloignées du texte, a priori, dans le spectacle vivant, des circassiens, des musiciens expérimentaux. Enfin bon, voilà, on s'amuse un petit peu avec les formes et à créer du coup des spectacles, des lectures qui ressemblent un peu à des performances d'art mêlé. Voilà, c'est un peu ça la thématique du festival. Et cette année, particulièrement, parce qu'on dégage forcément un thème chaque année qui est différent, qu'on va développer, qui va diriger un petit peu nos lectures et nos choix. Et cette année, on travaille sur les peurs et les phobies. Donc on a appelé l'édition « À nos peurs », avec un point d'exclamation. Et puis voilà, donc on va explorer ce thème de façon ludique. Il y a des textes qui sont des textes plus politiques, plus sociaux surtout. On va essayer d'explorer un peu à notre façon.
Alors, ce sont des textes d'auteurs contemporains ou alors qui sont aussi issus du carnet ou du répertoire du théâtre ?
Cette année c'est un peu plus strictement contemporain, même si on va piocher. On va piocher un petit peu dans tout le répertoire, mais ça reste vraiment majoritairement des textes contemporains.
Des textes un peu alarmistes ou alors c'est pour montrer une autre vision que la peur ?
Alarmistes, non, mais qui font état d'une réalité. Et on ne cherche pas à... On ne cherche pas à l'édulcorer, on ne cherche pas à apporter de réponse non plus, ce n'est pas notre rôle. J'aime pas trop les textes non plus. On a des choix qui sont engagés, mais on ne va pas aller chercher des textes qui viennent donner des leçons ou dire comment il faut penser, mais qui vont simplement interroger. Et puis après, c'est à chacun, en son âme et conscience, à réfléchir sur le sujet qu'on a proposé et savoir comment lui, chaque spectateur, se positionne par rapport à ce sujet et réfléchit à ses propres réactions sur telle et telle chose qui font peur ou par ignorance souvent, etc. Et voilà. Donc alarmiste, non, mais qui se pose là dans notre société et qui veulent dire quelque chose aujourd'hui, quoi.
Alors ce festival se déroule principalement à Chabrillan, où il y a aussi d'autres lieux, comme les fameux jours en amont.
Oui, en fait, c'est un festival itinérant dans plusieurs communes. Donc en fait, le festival, les grosses journées du festival sont en avril, 1er, 8 et 15 avril, respectivement à Mirmande, Livron et Valence. Et puis on a, cette année, on a instauré les amonts du festival qui vont se dérouler au mois de mars. Ce sont des lectures dans des bibliothèques, médiathèques. Et ça va de Cruas jusqu'à Die, puisqu'on sera à Die le samedi 18 mars à 16h à la médiathèque de Die pour une lecture des Hirondelles de Kaboul de Yasmina Kadra. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme panel d'artistes lors de ce festival ? Est-ce qu'on peut en présenter quelques-uns qui seront présents ?
Alors, on peut en présenter quelques-uns, bien sûr. Et après, je vous inviterai à venir les découvrir pour notre soirée d'inauguration qui aura lieu le 9 mars à Chabriant, justement, comme vous disiez, Chabriant, effectivement. Et où toute l'équipe sera présente et on va justement présenter un petit peu le travail de tout le monde. Mais donc, dans notre équipe artistique à nous, Compagnie La Muse Errante, il y a Olivier Brémond qui co-dirige la compagnie avec moi, qui est le scénographe de nos spectacles et puis du festival. Il y a Frédérique Espitalier qui est comédienne, qui est une comédienne de la région. Il y a Nathalie Vidal qui, elle, nous vient de Toulouse, qui est comédienne aussi. Il y a Christophe Payot qui est notre créateur et régisseur lumière.
Que nous connaissons aussi.
J'imagine, puisqu'il est du Diwa, évidemment. Voilà, et puis après des artistes plasticiens, on aura Marina Masquelier qui est vidéaste et plasticienne, qui fait un travail assez formidable, qui fait partie des Itinérances, cette association valentinoise d'artistes plasticiens, qui a elle aussi un festival sur Valence, qui se déroule d'ailleurs 2 mois après, qui s'appelle les Itinérances des Poissons Rouges. Voilà, donc on va l'accueillir, elle va faire un travail sur une des lectures. Et puis on aura Agnès Poisson. Agnès Poisson, c'est une compositrice de musique acousmatique, qui est de la région aussi, qui participe souvent d'ailleurs au Festival de musique acousmatique de Cré, que certaines personnes ne connaissent pas, alors que ça fait des années et des années et des années que ça existe, mais ça reste quand même relativement confidentiel, malheureusement, c'est dommage. Mais ce festival a lieu tous les ans, pendant l'été, je crois que c'est au mois d'août, si je dis pas de bêtises.
Et vous y participerez cette année ?
À ce festival ?
Oui.
Ça reste encore une hypothèse. Mais c'est possible, c'est possible.
Ça sera peut-être l'occasion pour vous de revenir, l'équipe du moins, ou
ouais,
quelques personnes,
oui,
pour en parler.
Oui, oui, oui. Oui. Voilà. C'est vrai que c'est difficile des fois, là, lors des interviews, d'arriver à mobiliser beaucoup de monde de la compagnie, parce qu'on a tous d'autres choses en même temps ailleurs, et c'est assez complexe de venir à plusieurs. J'aimerais bien qu'un jour on arrive à se réunir pour faire une émission en groupe.
La thématique, c'est les peurs. Est-ce que les peurs, vous les ressentez vous-même pour aborder cette thématique ?
Oui, bien sûr. Ben oui, 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 comme tout le monde, je crois. Après, nos peurs sont différentes en fonction, évidemment, de qui on est, du milieu dans lequel on évolue. On est dans une période, là... qui fait hyper peur, évidemment. Il y a les élections bientôt. Voilà, on voit plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent. Des peurs qui s'exacerbent chez certaines personnes, qui font dire des choses injustes, parfois, souvent. Et voilà, ça fait peur, évidemment, ça fait peur. C'est presque le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que c'est la peur, et puis la peur de la peur, et la peur d'avoir peur, enfin... Bon. Et voilà, moi, il y a des choses qui me font peur et qu'on n'évoquera pas forcément dans les textes parce qu'on est parti sur d'autres choses, et puis que nos choix sont aussi liés à nos lectures, à tout ce qu'on lit toute l'année, des textes, pour aller trouver de l'inspiration, de la matière. Mais on l'évoquera certainement dans les scénographies, visuellement. C'est les réseaux sociaux. Moi, les réseaux sociaux, ça me fait hyper peur, voilà. Ce que je vois souvent, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, de cette façon dont les gens peuvent dire tout et n'importe quoi sans aucune retenue, des choses qu'ils n'oseraient pas dire dans un rapport comme ça de groupe ou dans une conversation en direct. Et là, tout d'un coup, il y a des choses qui se lâchent et que je trouve très effrayantes. Et voilà, et ça me fait très peur, et ça me fait très peur aussi de comment tout ça va ressortir dans l'isolement des isoloirs.
Et toi-même, donc, tu présentes quoi pour ce festival ?
Alors, on va travailler sur trois textes en lecture, trois textes que j'aime beaucoup, qui sont des portraits, en fait, pour beaucoup. On va travailler sur « Mangez-le, si vous voulez », de Jean Tellet, qui est une histoire absolument atroce de notre histoire.
Oui, je l'ai lu, c'est terrible.
Oui, d'une hystérie collective qui va aller jusqu'à manger un homme parce qu'on l'accuse de plein de choses totalement injustes et injustifiées. Puis de toute façon, il n'y a rien qui peut justifier ça. Mais voilà, c'est une histoire vraie, une histoire réelle qui vient témoigner de l'horreur d'une foule galvanisée par la peur, justement, parce qu'ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas, c'est la guerre contre les Prussiens, ça se passe à la fin du 19e siècle. Et les gens ont peu d'informations, ou des informations qui circulent comme ça, des bruits de couloir, et ils en viennent à péter les plombs à une foire et prendre à partie un gars qui semble personnifier l'ennemi absolu. Et ça va aller très très loin, voilà. Donc voilà, on va travailler sur ce texte-là, par exemple, et c'est sur ce texte qu'Agnès Poisson, la compositrice de musique acousmatique, va travailler. Donc on va travailler aussi sur du son en multidiffusion, voilà, pendant la lecture.
C'est une installation sonore, donc
Oui, c'est une installation sonore, tout à fait. C'est une installation sonore et lecture avec des comédiens. Lecture en direct et installation sonore en multidiffusion dans une pièce, voilà. Avec le public au centre de tout ça.
Et ce texte, est-ce qu'il est un peu un écho aussi d'un autre spectacle, L'homme semence ? Puisque là, c'est pareil, hein, c'est un village où il n'y a plus d'hommes et que les femmes voudraient peut-être rencontrer un homme de manière à créer une descendance.
Oui.
Et du fait, justement, d'une répression due à un mouvement révolutionnaire.
Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, oui. Il y a un écho, il y a un lien, évidemment. Après, c'est un peu, comme je disais, c'est un peu le hasard de nos lectures toute l'année qui fait qu'on va choisir si ça, puis on se dit, ah, tiens, là, il y a une relation, là, c'est intéressant. Bon, voilà. Et donc, on va attaquer d'ailleurs le festival avec L'homme semence de Violette Ayot, puisque le 10 mars, le lendemain de l'inauguration, c'est une lecture qui se fera par Nathalie Vidal à la bibliothèque du Pouzin. Et oui, il y a beaucoup de textes qui se font écho les uns aux autres, comme ça. C'est vrai que là, on est un petit peu sur la même période, justement. Et alors, c'est un texte qui est plus empreint d'espoir, parce que ce sont des femmes qui se battent pour la survie de leur village et pour renouveler les générations, voilà. C'est cet homme qui passera par là et qui sera l'homme semence de tout un village. Donc oui, on y trouve des échos et en même temps c'est bien parce qu'on a là deux pendants avec Mangez-le si vous voulez qui sont radicalement opposés, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller dans quelque chose d'assez surréaliste quelque part pour aller vers l'avenir, pour aller vers du mieux. Et jusqu'où on peut aller dans la destruction et dans la folie, quoi.
Alors, ce spectacle, je reviens dessus, L'homme semence, qui sera joué le vendredi 10 mars, c'est ça ?
Oui.
À quel endroit, pardon ?
À la bibliothèque du Pouzin. À la bibliothèque du Pouzin. Alors, ce n'est pas un spectacle à proprement parler, c'est vraiment une lecture. Et nous, on entend lecture... Pour nous, les lectures, c'est assez simple, c'est assez... proche des gens, proche du public, c'est un rapport très intime et c'est un acteur, une image, parce qu'on joue aussi sur le costume, sur un petit détail, sur qui vont venir évoquer des choses, mais on n'est pas sur de la grosse, sur une mise en espace, des fois un peu surfaite, c'est difficile de trouver l'équilibre dans la lecture entre la mise en scène, la mise en espace et le rapport à la lecture. Parce que le rapport à la lecture met de toute façon dans une distance particulière, il y a le bouquin qui est là. Et en faire une mise en scène qui serait proche du théâtre, je trouve qu'il y a quelque chose qui, pour moi, ne fonctionne pas toujours là-dedans. Donc on reste dans quelque chose de beaucoup plus simple, un acteur, un bouquin, une image. et l'histoire qui se raconte.
Or, près des cieux, au bord du gouffre où rien ne change, une plume échappée à l'aile de l'archange était restée et pure et blanche frissonnait. L'ange au front de qui l'aube éblouissante naît, la vie l'a pris et dit l'œil sur le ciel sublime. Seigneur, faut-il qu'elle aille, elle aussi, dans l'abîme ? Il leva la main, lui, par la vie absorbée, et dit « Ne jetez pas ce qui n'est pas tombé. » Seul débris qui resta des deux ailes de l'archange englouti dans les nuits éternelles était toujours au bord du gouffre ténébreux. Les morts laissent ainsi quelquefois derrière eux quelque chose d'eux-mêmes au seuil de la nuit triste. Sorte de lueur vague et sombre qui persiste. Cette plume avait-elle une âme? Qui le sait? Elle avait un aspect étrange. Elle gisait et rayonnait. C'était de la clarté tombée. Les anges la venaient voir à la dérobée. Elle leur rappelait le grand porte-flambeau. Ils l'admiraient, pensant à cet être si beau, plus hideux maintenant que l'hydre et le crotal. Ils songeaient à Satan dont la blancheur fatale, d'abord ravissement puis terreur du ciel bleu, fut monstrueuse au point de s'égaler à Dieu. Cette plume faisait revivre l'envergure de l'ange, colossale et hautaine figure. Elle couvrait d'éclairs splendides le rocher. Parfois, les séraphins, effarés d'approcher de ces bas-fonds où l'âme en dragon se transforme, reculaient, aveuglés par sa lumière énorme. Une flamme semblait flotter dans son duvet. On sentait à la voir frissonner qu'elle avait fait partie autrefois d'une aile révoltée. Le jour, la nuit, la foi tendre, l'audace athée, la curiosité des gouffres, les essors démesurés, bravant les hasards et les sorts, l'onde et l'air, la sagesse auguste, la démence, palpitaient vaguement dans cette plume immense. Mais dans son ineffable et sourd frémissement, au souffle de l'abîme, au vent du firmament, on sentait plus d'amour encore que de tempête. Et sans cesse, tandis que sur l'éternelle fête, celui qui songe à tous pensait dans sa bonté, la plume du plus grand des anges, rejetée hors de la conscience et hors de l'harmonie, frissonnait près du puits de la chute infinie, entre l'abîme plein de noirceur et les cieux. Tout à coup, un rayon de l'œil prodigieux qui fit le monde avec du jour tomba sur elle. Sous ce rayon, lueur douce et surnaturelle, la plume tressaillit, brilla, vibra, grandit, prit une forme et fut vivante. Et l'on eût dit un éblouissement qui devient une femme. Avec le glissement mystérieux d'une âme, elle se souleva debout et se dressant éclaira l'infini d'un sourire innocent. Et les anges tremblants d'amour la regardèrent. Les chérubins jumeaux qui l'un à l'autre adhèrent, les groupes constellés du matin et du soir, les vertus, les esprits, se penchèrent pour voir cette sœur de l'enfer et du paradis naître. Jamais le ciel sacré n'avait contemplé d'être plus sublime au milieu des souffles et des voix. En la voyant si fière et si pure à la fois, la pensée hésitait entre l'aigle et la vierge. Sa face défiant le gouffre qui submerge, mêlant l'embrasement et le rayonnement, flamboyait, et c'était, sous un sourcil charmant, le regard de la foudre avec l'œil de l'aurore. L'archange du soleil qu'un feu céleste dore dit « De quel nom faut-il nommer cet ange, ô Dieu ?» Alors, dans l'absolu que l'être a pour milieu, on entendit sortir des profondeurs du Verbe ce mot qui, sur le front du jeune ange superbe, encore vague et flottant dans la vaste clarté, fit tout à coup éclore un astre. Liberté.
Je ne sais pas comment vous pratiquez la sélection d'un texte, certainement en parlant entre vous, en sélectionnant ou alors en orientant sur une thématique. Est-ce qu'il y a une facilité pour acquérir les droits d'utilisation de ces textes, ou alors ça se révèle compliqué ?
Ça n'est pas compliqué. C'est relativement simple et il nous est arrivé très rarement de ne pas obtenir les droits d'un texte. Ça nous est arrivé une fois parce que les droits avaient été accordés exclusivement à une compagnie à Paris qui avait demandé des droits exclusifs, qui les avait obtenus, et du coup, personne ne pouvait monter ces textes pendant cette période. Mais sinon, non, ça n'est pas compliqué. Par contre, c'est très cher. C'est la SACD pour les textes de théâtre qui s'occupe de ça. Et depuis peu, depuis l'année dernière, la SELF qui s'occupe de tout ce qui est texte littéraire et la lecture publique. Et c'est encore plus cher que la SACD. Et ce qui personnellement, bon, j'en profite pour le dire, ce qui personnellement moi me pose problème dans ces organismes qui collectent les droits d'auteur, c'est que une très infime, c'est bien, évidemment qu'il faut protéger les auteurs, évidemment que c'est bien de payer des droits. Mais c'est bien de payer des droits si ces droits vont aux auteurs. Or, une très infime partie vont aux auteurs, et le reste ne sert qu'à financer une structure qui gère ces droits. Et c'est vraiment, pour les petites compagnies, c'est un gouffre, avec des assiettes, des minimums, même si on est à la recette, quelles que soient les rentrées d'argent. Il faut des fois en donner plus que ce qu'on a rentré. Et là, ça pose un vrai souci. Un vrai souci.
Est-ce que politiquement, ou du moins économiquement, ça s'est révélé un peu plus ardu de pouvoir vivre ou qu'une compagnie puisse s'exercer dans la région ?
Oui, c'est difficile. Je crois que c'est difficile dans beaucoup de régions. C'est pas réservé à la nôtre. Après, c'est vrai que on a une nouvelle région qui ne favorise pas vraiment la culture, de proximité, la culture dans les différents territoires. Beaucoup de choses ont été supprimées, comme les CDDRA par exemple, qui étaient pour nous quand même une source de possibles subventions de la région sur un territoire.
Actuellement, vous n'avez perçu aucune contrepartie de ce modèle ?
Non. Non, on a quand même déposé un dossier parce qu'il y a un appel à subvention de l'ancienne région Donc avant la fusion, parce qu'il y a aussi, donc il y a le changement de présidence, mais il y a aussi la fusion des régions qui complexifie encore un peu plus le processus. Mais donc de l'ancienne région a été maintenue une aide au festival allant de janvier à avril 2017. Donc on a déposé un dossier, mais la commission, l'arbitrage de ces dossiers sera beaucoup plus tard et notre festival sera passé. Donc on aura peut-être une bonne surprise. Mais voilà, il est assez difficile de compter budgétairement dessus puisque le festival sera fini quand on saura si on a la subvention ou pas. Voilà. Donc oui, c'est compliqué. Évidemment, c'est compliqué, mais c'est compliqué d'une manière générale parce que les budgets sont de plus en plus courts, de plus en plus serrés. Il y a des lignes qui sont de plus en plus strictes de subventions et qu'il faut rentrer dans ces cases, dans ces grilles qui permettent que les dossiers soient retenus. Et donc du coup, ça amène beaucoup de compagnies à composer avec les exigences de ces institutions. Et du coup, ça sclérose un peu la création, malgré tout. Ça empêche un peu de la liberté de création, malgré tout. Donc, il y a un moment, soit on reste totalement libre et on prend le risque de ne rien avoir, soit on compose avec, on navigue, on aménage de manière à pouvoir rentrer dans les clous. C'est très compliqué d'arriver à ménager les deux et c'est compliqué, très compliqué.
Je vais venir sur la Musérante. C'est une compagnie qui existe depuis combien d'années ?
Ça fait très longtemps. La compagnie a été créée en 1998.
Et tu en faisais partie dans la création ?
Oui, on est deux à avoir fondé avec Olivier Brémond ensemble cette compagnie. Et on est les deux à la co-diriger depuis le début. Avec des arrivées d'autres personnes, avec plein de collaborations artistiques. Ça s'est ouvert à plein de gens, évidemment. Des gens qui sont passés, qui sont repartis, puis qui reviennent, ou des nouvelles personnes, tout ça. Bon, voilà. Et on essaie de travailler le plus possible en collaboration les uns avec les autres. Et c'est de ces réflexions et de ces échanges qu'émanent toutes nos créations et toutes nos...
Je suppose que vous avez des locaux pour pouvoir créer ?
Ponctuellement, oui. C'est-à-dire que là, par exemple, pour les créations du festival, on est accueilli en résidence à Livron par le service culturel de la ville. On manque un petit peu de partenaires. On a peu de coproductions, quasi pas. Et j'aimerais bien arriver à sensibiliser des structures un peu plus importantes qui pourraient nous accueillir en résidence et coproduire nos spectacles, nos créations. Ça viendra en son temps, j'espère. On y travaille et je pense que quelque chose se passera à un moment donné.
Qu'est-ce qui vous a amené dans le théâtre, Jacques ?
Quand j'étais gamin, dans ma famille, il y avait une petite compagnie amateur. Voilà, c'était mes cousins, des cousins et des cousins de cousins. Voilà. Et quand j'étais tout gamin, j'avais 8-9 ans, ils m'ont pris avec eux dans cette petite équipe. Voilà, donc j'ai commencé à toucher un peu comme ça. Ensuite, ça a continué au collège parce que j'étais super nul en dessin, c'était une catastrophe. Et notre prof de dessin, il dit, pour ceux qui, vraiment, le dessin, c'est pas leur truc, je leur propose de faire du théâtre. Allez, tiens, heureuse coïncidence, je vais m'y remettre un petit peu. Off, voilà. Et puis après, atelier de théâtre au lycée, et puis conservatoire, et puis après, cours Florent à Paris, et puis voilà. Donc, une succession de coïncidences qui ont fait que j'en ai fait mon métier et que j'en suis très heureux comme ça.
Et vous êtes combien alors dans cette compagnie, la Musérante, à exercer actuellement ? Et est-ce que c'est certainement difficile ?
Ça dépend ce qu'on entend par exercer. Il n'y a pas de salarié permanent dans la compagnie. Il y en a eu. On a eu une personne qui... qui était salariée permanente, on n'a pas pu la garder, malheureusement. Donc, quand le contrat s'est terminé, ben, ça s'est arrêté. C'était un contrat aidé, comme font beaucoup. Et sauf que, voilà, il est très difficile de rendre ces postes pérennes parce qu'ils n'arrivent pas à s'autofinancer, que l'activité n'arrive pas à financer le poste une fois les aides arrêtées. Donc ça, c'est très compliqué. Après, on est de manière entre guillemets bénévole, parce que tout le travail qu'on fait de recherche en amont, le travail de toute l'année qu'on fait tous, alors Olivier et moi un peu plus, mais les autres aussi, Nathalie, même à Toulouse, qui lit aussi beaucoup de choses, qui nous fait « Ah tiens, j'ai lu ça, vas-y, lis-le, malin, da-da-da-da », et puis on fait des coupes, et là, tu penses, on pourrait garder quel passage, et on pourrait faire quoi, et comment, on pourrait faire ci, ça, machin. Bon. Voilà, tout ce travail-là, on le fait toute l'année, et puis monter les dossiers, et tenir l'administration, la comptabilité, enfin bon, voilà. Donc, tous, même si notre métier il est plutôt artistique ou technique, on est obligé d'aller sur ces postes-là parce qu'on n'a pas de quoi financer un poste d'administration pour voilà. Donc on se débrouille, on fait les choses proprement, mais voilà, on est un peu de tous les postes et de tous les fronts et voilà. Alors il y a des fois c'est un peu épuisant, il y a des fois on n'en peut plus. On se dit bon, est-ce que c'est pas la dernière année? Est-ce qu'il faudrait pas arrêter? Et puis on a les témoignages du public, et puis on reçoit des mails qui nous disent « Ah là là, j'ai passé un moment extraordinaire, ah, vous m'avez fait découvrir ci, vous m'avez fait découvrir ça, et ça, et voilà, voilà. » Et on en reçoit pas mal, et du coup on se dit « Bon ben, finalement, le but premier, il est quand même un petit peu atteint, donc c'est peut-être dommage de s'arrêter, il faut peut-être persévérer, donc on continue, voilà. » Mais on remplit le d'une année sur l'autre, quoi. Voilà, parce qu'on n'est jamais sûr d'être en capacité de reconduire une année supplémentaire. Donc c'est un peu d'une année sur l'autre, savoir si on continue, si on arrête, si voilà.
Est-ce que vous ressentez quand même un soutien à quelque part, que ce soit au niveau des collectivités ou alors du public?
Oui.
Et peut-être même de mécènes?
D'un mécène, non. Malheureusement, on n'en a pas. On a un petit mécène, si. C'est la librairie La Balançoire à Cré, qui soutient le festival depuis sa création et qui nous a jamais lâchés tous les ans. Alors, dans la mesure de ses moyens, ça reste très très faible, évidemment. C'est pas un mécénat suffisamment conséquent. Il reste relativement symbolique. Mais malgré tout, il est important parce que chaque année, elle est là et elle nous dit « Ben, je suis toujours là ». Je suis toujours avec vous, je suis toujours derrière vous. Voilà, c'est important aussi. Après, on a des aides plus importantes. On a la communauté de communes du Val-de-Drôme qui nous soutient vraiment. Marie-Odile Cantener, la directrice du pôle territoire et communes, qui est vraiment, qui défend nos projets bec et ongles auprès des élus locaux. Il y a Benoît Maclin, le maire de Mirmande, et qui est président de la commission culture à la communauté de communes du Val-de-Drôme, qui aussi nous soutient beaucoup. Voilà, je sais que Jean Serret aussi, et aussi derrière nous, voilà, on a quand même la chance d'avoir quelques personnes comme ça qui ont envie de soutenir les initiatives artistiques et culturelles locales. Et on les remercie de vraiment continuer à nous soutenir parce que c'est hyper important qu'ils soient là. S'ils n'étaient pas là, ça fait un moment qu'on aurait lâché l'affaire. Il y a la ville de Livron aussi à travers la directrice du service culturel, Anne Gruel, qui fait la programmation de saison de Livron, qui a toujours défendu nos projets, même avec les changements de municipalité, où on sait que quelquefois, on change de municipalité, donc on balaye tout ce qui a pu être fait avant, le bon et le mauvais, pour refaire autre chose, parce qu'il ne peut pas être admissible que la municipalité précédente ait fait quelque chose de bien, donc voilà, quel que soit le bord, hein, peu importe. C'est toujours un peu comme ça. Et donc, elle est là pour nous défendre et continuer, faire que ça puisse perdurer malgré ça. Et ça marche. Donc, merci à elle aussi. Et puis, donc voilà, à travers Jean Serret, le conseil départemental aussi, qui nous suit, sur l'aide à la création aussi, sur l'événement. Enfin, voilà. Donc oui, on a quand même des soutiens précieux.
Et vous disposez donc d'une certaine reconnaissance.
Ça commence. ça commence. Et au niveau du public aussi, un petit peu. Ça fait quand même 8 ans qu'on a ce festival. Et j'entends encore de moins en moins des gens qui disent « Ah, festival Voyage au cœur de l'homme, non, ça ne me dit rien, je crois, je ne vois pas, je ne connais pas. La musique rentre, non, non plus. » Mais de plus en plus de gens, ah oui, 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 là, oui, oui, la musée rente, oui, 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 le festival Voyage au cœur de l'homme, oui, 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 tout à fait. Et j'ai rien vu encore, mais oui, oui, j'en ai entendu parler, j'ai, voilà. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est, que je voulais dire et qui est une catastrophe, c'est l'image du théâtre contemporain et de l'art contemporain dans les esprits. C'est-à-dire que on dit théâtre contemporain, on dit art contemporain, pour beaucoup, beaucoup de gens, c'est un gros mot. Ce sont des choses qui sont réservées à une élite, à des gens particulièrement intelligents, particulièrement cultivés. Et j'entends beaucoup de gens qui me disent « Mais moi, je me sens pas à ma place au théâtre, je me sens pas à ma place dans un musée d'art contemporain, je me sens pas à ma place dans telle galerie ou là, ou les vernissages ou tout ça, parce que voilà, il y a des choses que je comprends pas, j'ai pas les codes. » Alors oui, effectivement, il y a des codes qui s'apprennent. Et la catastrophe aujourd'hui, c'est que dans l'éducation nationale à l'école, c'est très tard qu'on commence à aborder l'art et le théâtre contemporain. On commence d'abord par étudier des choses très intéressantes, il n'y a aucun problème, sur le théâtre avant les Molière, Corneille, Racine, le théâtre antique, etc. Sauf que et on n'a pas les bases du théâtre qui se fait aujourd'hui à notre époque. Donc, en fait, dans l'éducation, il y a un manque d'éducation sur la création contemporaine, sur l'art contemporain. On n'a pas les codes parce qu'on ne nous les apprend pas. Alors, on connaît parfaitement les codes du 17e, mais les codes du 21e, on ne les a pas. Donc du coup, les gens, quand ils poussent la porte d'un musée, d'une galerie, ils sont complètement largués parce que mais je ne sais pas, je ne comprends pas, c'est quoi, pourquoi voilà. Et puis... Donc ça, effectivement, ça s'apprend. Oui, effectivement, il y a des codes qui peuvent s'apprendre, même au théâtre. Mais au-delà de ça, l'art, ça n'est que de l'émotion. Et peu importe si on n'a pas compris exactement ce que l'artiste ou l'auteur a voulu dire quand il a écrit ça, quand il a peint ça, quand il a sculpté ça, ou quand il a fait telle installation qui paraît complètement dingue. C'est juste de l'émotion. Après, on peut faire la démarche supplémentaire d'aller lire, d'aller poser des questions pour savoir, voilà, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, ça, pourquoi il y a ça, etc. Voilà. Et ça, ça va nous donner des codes pour pouvoir décoder d'autres choses prochainement qu'on va voir ailleurs, etc. Mais c'est d'abord de l'émotion. Et malheureusement, on est encore quelques artistes à ne pas... j'espère ne pas en faire partie. En tout cas, je lutte contre ça. Mais on est encore quelques-uns à vouloir garder cette aura de mystère et de piédestal un peu d'artiste qu'on met à un endroit où seuls quelques privilégiés peuvent comprendre ce qui se passe. Et ça, je crois que c'est un tort parce qu'on ferme toutes les portes aux gens, mais à la majorité des gens. Et voilà, et avec ce festival, on essaie justement de se battre contre ça et de dire, mais venez écouter du théâtre contemporain. C'est pas parce que vous connaissez pas que vous pouvez pas être ému par ça, par une écriture, chacun ne comprendra pas la même chose en fonction de son bagage culturel, de sa vie, de où il en est dans sa vie, il sera touché autrement et il y a des choses qui seront pas comprises de la même manière par chacun. Mais ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est d'arriver là et d'être touché par quelque chose. Et ça, c'est possible et pour tout le monde.
Jacques, avant de clore cette émission, on peut peut-être indiquer aux auditeurs les moyens de se renseigner sur ce festival.
Oui.
Et donc, vous avez certainement un site internet.
Alors, on a un site internet qui est le www.muserente.com. Faut pas oublier les deux E et les deux R au milieu, M-U-S 2E2RANTE, museerante.com. On a une page Facebook aussi, vous tapez Compagnie la Muséante, vous trouvez aussi ça. Il y a un formulaire dans le, sur le site, un formulaire de contact qui permet qu'on vous rentre dans notre mailing list pour pouvoir recevoir les infos précises, voilà, même si elles seront mentionnées sur le site, mais des fois il est bon, on va pas aller toutes les semaines ou tous les trois jours sur le site, donc ça permet de recevoir les infos en temps et en heure. Voilà, et puis après le programme là, il va sortir, c'est une question de jours. On le trouvera un peu partout, hein, on le diffuse bien, il sera disponible là dans le Diwa à plein d'endroits. Voilà, comment avoir les infos, et puis par Radio Diwa, évidemment, par cette émission aussi.
Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu plus ce qui se passera le 18 mars à la médiathèque de Die, justement ?
Oui. La médiathèque de Die nous accueille pour faire une lecture des Hirondelles de Kaboul de Yasmina Kadra, qui est un roman qui parle d'obscurantisme dans le Kaboul des années 2000. Et à travers l'histoire de deux couples qui vont se retrouver liés par une histoire pas très jolie. Donc ça parle beaucoup de sexisme, de violence, d'obscurantisme, évidemment. Ça va se dérouler, donc on fait cette lecture avec Frédéric Espitalier et moi-même. Donc c'est une lecture à deux voix qui sera un petit peu déambulatoire, c'est-à-dire qu'on va jouer sur plusieurs espaces parce que la lecture se fait en quatre parties. Donc on va conduire le public dans des endroits différents. Pas de la ville, mais aux abords, voilà, la médiathèque, on joue sur plusieurs espaces. Voilà, on est très content de venir à Die parce que c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette barrière du Die, voilà, à partir de Saillant, et ceux qui font partie de Cré et ceux qui font partie de Die. Donc, et on est content de franchir la frontière ce coup-ci.
Eh bien, Jacques Merle, merci d'être venu parmi nous et donc souhaitons une bonne aventure à ce festival.
Merci, merci beaucoup.
Et puis, bonne soirée.
Bonne soirée à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Interview. 1 Terre Vue.
Okay. The bird.